À vous qui découvrez cet enregistrement dès sa sortie ou bien plus tard, ceci n'est pas seulement un podcast, c'est une enquête. Une enquête sur l'avenir. Il est indéfini, on nous dit qu'il est incertain, et de plus en plus il nous paraît plein de menaces. Mais est-ce une fatalité ? Je m'appelle Ariane Cronel et j'ai décidé de découvrir pourquoi on nous a comme kidnappé notre avenir, et surtout, comment penser et avancer aujourd'hui pour faire exister des futurs qui nous réjouiront demain.
Enquête d'avenir.
Le podcast.
Comment vivrons-nous demain ? Dans des mégalopoles toujours plus énormes, sous des dômes climatisés, reliés entre eux par des RER à grande vitesse ? Dans des villes violentes et dangereuses, où l'élite préservée vivra en hauteur, tandis que la majorité misérable s'entretuera dans les bas-fonds ? La science-fiction fourmille de représentations sur ce à quoi pourrait ressembler la ville de demain, tantôt version gratte-ciel, tantôt rendue pour partie au moins à la végétation. Personnellement, je sais ce que je choisis. La version verte et sans le bruit assourdissant du trafic, mais avec toutes les facilités matérielles et de services qui font l'attractivité de la ville depuis des décennies. Mais peut-on avoir l'un sans l'autre ? Les services, l'offre culturelle, les transports et l'air pur, les espaces verts, le chant des oiseaux ? On l'a bien vu dans l'épisode précédent avec Laetitia Vito. La concentration de l'activité dans les métropoles génère des besoins en infrastructures et en logements qui entraînent l'artificialisation accélérée des sols, rallongent les temps de transport quotidiens et provoquent aussi la déprime de nombre d'habitants. Or, le changement climatique, avec la hausse des températures, la fréquence accrue des canicules et des épisodes de pollution, pose la question de l'adaptation du mode de vie et de l'aménagement urbain à un nouveau paradigme. Et c'est même l'habitabilité à terme des grandes villes qui pourrait être remise en question. Alors, peut-on imaginer faire évoluer la ville en tenant compte à la fois des aspirations au vert des nouvelles générations, des besoins objectifs en logement et infrastructures et des défis climatiques ? Pour évoquer toutes ces questions, j'ai rendez-vous ce matin derrière la Grande Arche de la Défense, typiquement le genre d'endroit qui symbolise la modernité de la ville, la performance économique et qui, moi, me déprime profondément.
Évidemment, je me suis paumée.
Mon témoin du jour, Diego Harari, travaille dans la promotion immobilière. Il est donc particulièrement bien placé pour me parler des évolutions du secteur de la construction et des perspectives pour l'aménagement urbain. Alors Diego, en quoi le modèle urbain hérité de l'après-guerre doit-il être transformé pour répondre aux enjeux climatiques ?
Alors, c'est une question extrêmement vaste parce que l'urbanisme, la fabrique de la ville, il y a plein de courants, il y a plein de territoires différents, et donc on pourra passer une heure à étudier chaque modèle et ses problèmes, etc. Mais donc on va être obligé de simplifier un peu à mort. Mais si on essaie de faire ça, l'urbanisme, disons, de la deuxième partie du XXe siècle.
Tenez, entrez chez les Houdins. Chaque jour, la mère reste seule. Le père travaille à Paris, la fille aussi qui est secrétaire, et le fils qui suit des cours techniques. Le petit frère est écolier à Sarcelles.
Michel, dans l'appartement que vous occupiez avant à Paris, comment était organisée votre vie ?
C'est-à-dire que je n'avais pas de chambre. Et alors, je couchais avec mes deux frères dans la salle à manger. Alors le soir, avant de s'endormir, pour pouvoir défaire les lits superposés, il fallait repousser la table, pousser un petit peu le buffet et puis défaire le divan. Alors c'était toute une organisation.
Monsieur Houdin, quels sont, à votre avis, en résumé, les avantages et les inconvénients de la vie à Sarcelles ?
Les avantages, d'abord, on a des logements plus grands, plus aérés, plus lumineux. La vie est plus saine. La nuit, on dort mieux parce qu'il y a moins de bruit que dans Paris. Les inconvénients, je ne vois uniquement que la question transport qui fait perdre du temps pour aller travailler et pour revenir du travail.
Et tout de même, le transport grève votre budget parce que vous êtes trois à aller à Paris.
Oui, nous sommes trois à aller à Paris. Ça représente, qu'est-ce qu'on avait dit
4 fois 32. Environ dans les 7000 francs, 7 à 8000 francs par mois.
C'est 7 à 8000 francs par mois qui augmente le prix du loyer, évidemment.
Il y a eu un grand besoin de construction de logements, toute la génération des baby-boomers. C'est fait sur un modèle très tourné autour de la voiture, qui a embarqué un certain nombre de choses. D'abord, une notion d'extension. La distance n'était plus tellement un frein. Et avec ça aussi des notions un peu d'anurbanisme fonctionnel. On met le logement à un endroit, le bureau à un endroit, le commerce à un endroit. Et ce qui est, a priori, pas idiot. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir tous les camions des centres commerciaux dans les logements et tout. Donc, d'un pur point de vue justement fonctionnaliste, en fait, c'est très intelligent. Mais on s'en rend compte quelques décennies après, ça a un certain nombre de problématiques, et notamment cet enfermement dans la dépendance à la voiture et cette logique de consommation effrénée de territoire. Quoi. Voilà. Et ces deux sujets-là sont liés certes à la question du changement climatique. Plus on dépend de la voiture, il faut fabriquer des voitures, il faut de l'essence ou demain de l'électricité pour les faire avancer, etc. Sont liés à des problématiques de consommation de ressources et de consommation donc de foncier. La consommation de foncier, c'est une problématique qui est en lien avec le changement du climat, parce qu'il y a à la fois tout ce que la Terre comprend de stockage de carbone, et donc quand on l'artificialise, on arrête ces puits de carbone, mais c'est aussi un enjeu de résilience climatique, parce que les fonciers ont un rôle important dans la régulation du climat, dans le cycle de l'eau, dans la production agricole, évidemment, et quand il va faire un autre climat, on aura moins de productivité agricole. En plus, on aura besoin de produire des biocarburants, donc il faudra plus de surface agricole. Donc là, on voit bien qu'il y a une tension foncière qui se génère. Et après, il y a tous les autres sujets environnementaux liés au terrain, à commencer par celui de la biodiversité. Et voilà, on a mité nos territoires à une vitesse qui est sans commune mesure avec le besoin réel. Entre 1950 et, disons maintenant, on a un rythme d'artificialisation qui est 3 fois supérieur au rythme de l'accroissement démographique.
Vous avez bien entendu, on artificialise 3 fois plus que le besoin théorique lié à l'augmentation de la population. Concrètement, quand on parle de consommation effrénée de territoire, il faut avoir en tête ce chiffre. Tous les 10 ans, l'équivalent en surface d'un département français disparaît sous le béton, aux 2/3 pour construire des logements, le tiers restant pour les infrastructures, les commerces, les bureaux.
Ça s'explique partiellement pour des raisons qui ne sont pas la croissance de la population en elle-même, mais la croissance des ménages, la décohabitation, tout ce qu'on connaît. Donc il y a une part de ça qui est réellement nécessaire à justifier, mais il y a une part de ça qui ne l'est pas et qui est que on était encore dans cette logique très 20e siècle, du monde est infini, les ressources sont infinies, et donc pourquoi se priver d'avoir tous un grand jardin, un pavillon, et on multiplie ça à l'infini, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Sauf que aujourd'hui, on rencontre la limite de ce système.
Ça, c'est rien de le dire. Y a-t-il quand même une prise de conscience qu'il faut changer la manière d'envisager l'aménagement urbain ?
Ce dont je parle, c'est des notions sur lesquelles on est largement en train de revenir. Quand même, tu vois, c'est-à-dire que mine de rien, l'urbanisme fonctionnel, ça fait déjà 20 ans qu'on a arrêté. Maintenant, quand on construit des quartiers, on construit toujours des quartiers mixtes. On a une vision des transports en commun qui est très centrale dans la fabrique urbaine moderne. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, hein, évidemment. Il continue à y avoir de l'extension urbaine, mais de moins en moins. Et on le voit là d'ailleurs très récemment avec les chiffres de la maison individuelle. Il y a eu la faillite de Phoenix, des choses quand même un peu marquantes dans l'histoire, ou la fin d'une certaine histoire.
Il y a plusieurs façons de faire construire sa maison Phoenix.
Ce devait être le foyer de ses rêves.
Sauf que le chantier est arrêté depuis mars.
Son constructeur, les maisons Phoenix et leur groupe Geoxia ont été placés en liquidation, le laissant seul face aux nombreuses finitions.
Son pavillon aurait dû lui être livré au début du mois. Mais le promoteur a changé toutes les serrures, la maison est fermée à clé, plus aucun artisan ne peut intervenir. Julien a souscrit un prêt relais sur sa maison et emprunté 300 000 euros qu'il doit rembourser.
On nous revient pour l'instant une somme de 800 euros par mois.
Pour ça.
Et à l'heure actuelle, on continue à payer depuis 3 mois, mais rien n'avance. On se demande où est notre argent.
Au total, près de 1600 chantiers ont été stoppés net un peu partout en France.
Chez Phoenix, tous les Français n'ont pas la même maison.
Mais il y a autre chose qui continue, qui est plus à l'échelle de l'aménagement du territoire, qui est la notion de métropolisation. Voilà. Et ça génère ces notions de densité, ça génère du besoin de construction, alors qu'il y a des logements libres en France, juste qu'ils ne sont pas forcément au bon endroit. Alors tout n'est pas la métropolisation, il y a aussi la littoralisation. Mais voilà, on a des attractivités d'un certain nombre de territoires, pour différentes raisons, qui génèrent encore du besoin de production et qui continuent à nous enfermer quelque part dans un certain nombre de schémas. Hein. Voilà, de villes denses, chères en termes d'accès au logement, particulièrement aujourd'hui avec la hausse des taux. Hein. Ça devient impossible d'acheter un logement. Donc tout l'idéal de la France des propriétaires qui était dans cette idée de la construction des années 60, etc., où la raison pour laquelle on faisait aussi ce modèle du pavillon individuel, c'était parce que c'était la solution la moins chère. Du terrain très très bon marché, et construire une maison individuelle au mètre carré, c'est beaucoup moins cher que construire du collectif. Et donc, on pouvait rendre propriétaires des Français de classe moyenne, populaire, grâce à ça. Aujourd'hui, on arrête pour des raisons environnementales, très bien. On concentre les emplois, pas forcément par une vision politique ou sociétale de la chose, juste parce que c'est le mécanisme du tertiaire. Et c'est une sorte de cercle vicieux.
Et oui, nous voilà enfermés dans un cercle vicieux qui concentre les emplois dans les métropoles, ce qui attire la main-d'œuvre et génère des besoins en logement. Logement insuffisant, donc toujours plus cher, que ce soit à louer ou à acheter. Résultat, des difficultés de recrutement dans les emplois de service, comme l'éducation, la santé ou la restauration. Souvenez-vous des propos de Laetitia Vito dans l'épisode précédent. D'après l'INSEE, 79,6% de la population active occupe des emplois tertiaires. Et par ailleurs, 25% de l'emploi total du pays est concentré dans la seule métropole parisienne, ce qui est littéralement dément. La deuxième métropole la plus prolifique en emploi est en effet celle de Lyon, qui ne représente que 4% de l'emploi global. Autant dire que le déséquilibre entre Paris et la province, déjà dénoncé après-guerre, n'a fait que se renforcer depuis.
C'est sûr qu'on va pas faire habiter dans la Creuse les cadres de la défense. Hein, voilà. Même post-Covid, avec l'essor du télétravail, la réalité des flux est assez faible, en réalité. Alors ça a un impact sur les prix de l'immobilier d'un certain nombre de villes petites et moyennes qui sont bien connectées aux métropoles, qui tout d'un coup voient un petit afflux de cadres sup, mais ça peut suffire à changer les équilibres dans les transactions immobilières. Hein. Et donc, localement, ça peut générer de la gentrification et encore de l'exclusion au logement, etc. Mais c'est pas ça qui change globalement la tension immobilière sur les métropoles. On le voit, là, j'ai vu des chiffres très alarmants sur les étudiants, notamment, là, qui sont touchés de plein fouet. Hein. C'est les premiers à sortir quelque part de l'immobilier quand ça se tend. Et le nombre d'étudiants qui font pas les études qu'ils voudraient faire parce qu'ils ont pas trouvé de logement dans la ville où il devait aller, c'est incroyable.
Comme Diego l'explique, nous héritons d'une logique d'aménagement et de concentration des activités économiques qui a contribué à artificialiser très largement les couronnes périurbaines et en particulier la région parisienne. Face au changement climatique et notamment à l'augmentation des températures, doit-on imaginer à l'avenir une dynamique de déconcentration ou, au contraire, une poursuite de la bétonisation pour répondre aux besoins en logement?
Là, si on prend vraiment l'angle de la résilience climatique, hein, parmi tous les sujets environnementaux qu'on a, d'abord, vis-à-vis de mon rôle de promoteur immobilier, il faut voir que le flux de construction neuve, c'est pas grand-chose. Les meilleures années, c'est 1% du stock. Donc, tout se traite pas sous l'angle du promoteur. Maintenant, ça nous empêche pas, évidemment, d'avoir un regard et un intérêt pour la question urbaine et donc d'avoir des opinions là-dessus. Il y a un certain nombre de travaux qui sont menés et on en avait parlé, mais il y a les travaux d'Alexandre Florentin, la commission de la ville de Paris, ils ont fait un travail qui s'appelle Paris à 50 degrés, qui est assez intéressant.
Il fait 50 degrés à l'ombre, il n'y a personne dehors, la ville est invivable, les derniers étages sont vides, ils sont tout simplement devenus inhabitables, même la nuit les températures ne baissent pas, nos organismes sont en souffrance et notre vie toute entière est remise en question.
Paris sous 50 degrés, c'est par exemple des climatiseurs qui s'arrêtent de fonctionner, comme on a le cas avec une clinique où au-delà de 43 degrés, ça s'arrête et tout le fonctionnement de l'hôpital est perturbé. C'est le réseau électrique qui est perturbé, les rails qui se déforment.
Je vous annonce la fin du monde! Ah, tout le monde va périr!
Non!
Un scénario catastrophe qui deviendra réalité d'ici quelques années.
Le phénomène interpelle à tel point que les autorités parisiennes ont prévu en octobre de l'année prochaine un exercice de crise Paris 50 degrés.
Comment faire en sorte que Paris reste habitable? Le chantier est immense.
Alors dans la capitale, on arrache à tour de bras. Le bitume est devenu indésirable car il conserve la chaleur.
500 arbres vont être plantés sur cette place.
Du vert dans les rues, sur les façades, les toits des immeubles, pour rafraîchir Paris et sa périphérie.
Redessiner nos rues, mais aussi nos bâtiments. En réfléchissant les rayons du soleil, cette peinture blanche permet, selon les bâtiments, une réduction de la température jusqu'à 6 degrés.
Et il y a un certain nombre de solutions qu'on pourrait faire, qui sont des solutions difficiles, comme toutes les solutions de transition. Hein. Est-ce qu'on a envie de troquer le patrimoine architectural de Paris contre de la résilience climatique? Hein, parce que mine de rien, il faudrait probablement troquer les toits en zinc contre des toits blancs, il faudrait isoler par l'extérieur les bâtiments en pierre de taille. Enfin, voilà, si on veut faire des choses un peu significatives, on rentre dans ces arbitrages-là. Ou est-ce qu'on garde le Paris historique et ça devient une ville-musée un peu invivable mais dédiée au tourisme et on ira vivre ailleurs? Les questions sont ouvertes. Maintenant, même en mettant ça en place, même en revégétalisant massivement, qui est pour l'instant ce qu'on fait, parce que c'est la seule chose qui finalement est relativement consensuelle. Personne n'est contre débétonner et planter des arbres pour le moment. C'est bien, ça va dans le bon sens, mais faut pas se leurrer, c'est pas magique. Hein, ça, et on a aujourd'hui ce qu'on appelle l'effet îlot de chaleur urbain, qui est à Paris particulièrement, au centre de Paris, on peut aller jusqu'à parfois 5 degrés d'écart avec la campagne. Mais quand il fait 40 degrés à la campagne, même si on arrivait à tout supprimer de l'effet îlot de chaleur urbain, ce qui ne sera pas du tout le cas en végétalisant davantage, on arriverait à 40 degrés comme ailleurs, quoi. Et 40 degrés, c'est aujourd'hui. On ne parle pas du climat de 2050, encore moins du climat de 2080. Qui dans lesquels il fera 50 degrés, hein, c'est pas pour rien qu'ils l'ont intitulé comme ça.
Diego a raison. Végétaliser n'a aucune incidence sur l'augmentation globale des températures et ne changera rien au fait que 50 degrés à l'ombre est insupportable pour le corps humain. Or, d'un prêt, l'Institut Paris Région, 31% des habitants d'Île-de-France, soit la bagatelle de 3 700 000 personnes, résident dans des îlots considérés comme fortement vulnérables à la chaleur. Bref, ce n'est malheureusement pas en plantant des arbres qu'on résoudra le problème de l'habitabilité des villes dans l'avenir.
Et donc on arrive, on parlait de verrouillage, hein, se dire que finalement nos bâtiments ils sont pas du tout prévus pour. Il faudrait avoir un urbanisme et une architecture de pays chaud. Et même ça, c'est plus que juste l'architecture et l'urbanisme. C'est même le mode de vie. On voit en Espagne. On travaille pas à certaines heures. Alors c'est de moins en moins vrai parce que la mondialisation, voilà, normalise tout, etc. Mais globalement, historiquement, le mode de vie était différent, il était adapté à un climat qui était pas supportable pendant certaines parties de la journée. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ces logiques-là. Peut-être qu'il faudra se réveiller beaucoup plus tôt. Et terminer beaucoup plus tôt, et voilà, et ensuite aller faire la sieste, et recommencer beaucoup plus tard sur d'autres activités. Enfin voilà, il y a des changements potentiellement d'usage aussi assez profonds. Alors, on n'est pas du tout pour le moment parti sur ces réflexions-là. Je pense que le débat sociétal est encore très loin de ça. La solution vers laquelle on va, c'est beaucoup plus la climatisation, et on voit d'ailleurs l'explosion du marché des climatiseurs, qui est une vraie solution à court terme, et je jette la pierre à personne de s'installer un climatiseur, et particulièrement des populations fragiles qui sont vraiment touchées dans leur santé et leur bien-être par rapport à ces problématiques-là. Mais quelque part, c'est encore le modèle du 20e siècle qu'on projette dans les problèmes du 21e, et on va avoir encore plus de consommation d'énergie, encore plus d'îlots de chaleur urbain, puisqu'on va rejeter cette chaleur dans la rue. Et donc, c'est une demi-solution.
Et alors, ça serait quoi la solution ?
La solution de long terme, c'est des changements systémiques profonds. C'est là où il faut réinterroger nos modèles de société de façon complète. Quand on commence à parler de nos horaires de travail et tout, enfin voilà, on est sur des conversations nationales énormes. Si on change les horaires des écoles, ça change toute la société derrière. Il y a toute la notion d'aménagement du territoire, et donc ça, c'est aussi la notion de l'économie. Et ça peut pas se faire sans la réflexion globale de c'est quoi la production économique dans un monde neutre en carbone. Et là, on rentre dans des réflexions comme il peut y en avoir au Chiffre Project ou des choses comme ça. Voilà. où ça va très loin et on ne peut pas voir les choses de façon déconnectée, quoi. Sinon, on n'y arrive pas. Hein.
On retombe ici sur l'un des constats majeurs de l'enquête. Il nous faut changer de système et avoir une vision globale du modèle vers lequel on veut aller, et non essayer de résoudre chaque problème en silo. Pour autant, chaque secteur, chaque acteur doit contribuer au changement de modèle en transformant ses pratiques, mais aussi ses objectifs. Alors, de ce point de vue, où en est le secteur de la construction ?
Le secteur du BTP, pour parler de façon large, est au cœur des problèmes environnementaux et sociaux, que ce soit en termes d'extraction de ressources, de consommation de foncier, d'artificialisation des sols, de changement climatique, on est en plein dedans. Et donc, on a pour coutume de dire chez Vinci que quand on est une partie du problème, on est une partie de la solution. Et je pense que la majeure partie des individus dans le secteur, maintenant, ont quand même largement conscience de ça et une vraie volonté individuelle de s'aligner entre leur perception des enjeux et la réalité de leur métier. Donc, il y a des vraies évolutions. Et en France, on est très avancé. On est un des pays les plus exigeants en termes de performance énergétique, carbone des bâtiments, etc., dans la construction neuve, j'entends. Et c'est des choses qui sont maintenant de plus en plus bien accueillies par les acteurs du secteur. Globalement, il y a une volonté de progresser et on est de plus en plus nombreux à considérer l'importance du rôle de l'État là-dedans. On est dans une économie libre et enfin marché libre et concurrentiel. Si on n'est pas régulé, on ne peut pas progresser. Et on a envie d'être plus performant environnementalement, mais si tout se joue au plus gros chèque, au plus bas prix, on ne peut pas. Et on parlait de verrouillage, on est exactement dans ces notions-là. Donc la norme, quelque part, elle nous permet de nous extraire de cette lutte acharnée les uns contre les autres. On dit, tous, on va faire ça, c'est le minimum, et on est très content de pouvoir progresser là-dessus. Et on a fait des progrès énormes. Rien que moi, en à peine plus de 15 ans de carrière, les consommations d'énergie dans les bâtiments neufs, c'est incroyable. On a divisé de plusieurs fois les consommations d'énergie. Si on prend un peu de recul historique dans les années 60-70, la vision 20e siècle, c'était techniquement, on sait avoir un logement confortable, etc., en chauffant, etc. Donc l'isolation des bâtiments, ça sert à rien. Voilà. Et donc on mettait 2 cm d'isolant pour éviter les points de rosée, donc les problématiques d'humidité, voilà. Mais c'est tout, parce que pourquoi faire ? Alors, on commence à basculer vers d'autres problèmes, parce qu'on a mal anticipé le changement climatique. Un bâtiment thermos, quand il fait très chaud, s'il n'est pas bien conçu pour ça, du coup, on a d'autres problèmes. Et donc, on évolue, on attaque toutes ces problématiques-là. Et franchement, c'est un secteur qui a fait énormément de progrès sur toutes ces notions. Mais on n'est pas encore au rendez-vous, et notamment, on a une problématique structurelle depuis au moins une décennie dans le secteur de l'immobilier d'acceptabilité, c'est-à-dire quand la société, les parties prenantes perçoivent de plus en plus les impacts et on a des projets qui sont visibles. Voilà, hein. Quand on est industriel et qu'on fabrique des trucs dans une usine loin, personne ne le voit, on le consomme tous les jours, mais on le voit pas trop, quoi.
C'est un sujet d'ailleurs. Le fait qu'on le voit pas.
Exactement. L'invisibilisation, c'est un vrai problème environnemental. Mais nous, on n'est pas invisibilisé. Parce que quand on fait un chantier, tout le monde le voit. Et plus il est gros, plus on le voit à distance, et dans les journaux, etc. Et donc, on est perçu dans le secteur comme des bétonneurs. Et donc, ça génère une problématique d'acceptabilité qui, après, vient se superposer à des problématiques fiscales qui fait qu'aujourd'hui, la construction de logements pour les équilibres financier d'une mairie, c'est devenu plus tenable. Donc tout ça fait qu'on n'arrive plus trop aujourd'hui à construire en France. Et ça nous remet une pression sociétale et politique sur comment est-ce qu'on n'est pas un bétonneur et comment est-ce qu'on apporte autre chose au territoire que de rajouter de la densité et de l'effet d'îlot de chaleur, des émissions de carbone, etc. Et donc, on a quand même de plus en plus, au-delà même de la norme, une volonté des acteurs d'aller chercher des leviers de création de valeur locale avec ça pour recréer de l'acceptabilité des projets. Ça devient un enjeu purement business. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que c'est là où on a des vrais leviers motivationnels dans les entreprises et où on peut vraiment avancer. Et ça devient un vrai sujet. Aujourd'hui, même dans les terrains privés, l'équation pure de j'ai un PLU, j'ai le droit de construire un X et il y a un marché des clients, donc je le fais, ne fonctionne largement plus. Hein. Les maires ne veulent pas, même si c'est conforme à leur PLU. Les riverains nous mettent 50 000 recours. Et on fait un projet, on le défait, on le refait, on le défait. Et là où on mettait 2 ans à sortir un projet en moyenne il y a 10 ans, maintenant on est sur 3-4 ans, hein, parfois certains projets plus. Donc il y a une vraie tendance de fond à chercher à améliorer le rapport sociétal avec l'acte de construire.
Ça ne vous rappelle rien ? Pour maintenir leurs activités, les promoteurs doivent désormais réfléchir à ce qu'ils peuvent apporter de positif à un territoire et proposer d'autres bénéfices collectifs que la réalisation d'un bâtiment. Ça va dans le sens de ce qu'on m'a confié à Sinapi, de la Société Générale, ou Aude Vinsrich, d'EDF, sur le fait que la transition environnementale obligeait les entreprises à sortir de leur périmètre habituel de responsabilité et à élargir leur offre de valeur vers des produits ou des services nouveaux.
Dans chaque territoire et pour chaque marché, il y a des choses où il y a un réel besoin et où il y a des conséquences sociales à ne pas répondre à ce besoin. Donc il faut trouver la façon de réhabiliter la réponse à ce besoin-là. Tout dépend de quel immobilier on fait, tout dépend de qu'est-ce qu'on va chercher, et c'est pas la même chose de faire du greenfield ou de faire du recyclage urbain.
Mais est-ce plus facile et plus avantageux pour un promoteur de faire du recyclage urbain ou de construire du neuf sur un terrain vierge ?
C'est beaucoup plus facile d'aller chercher un terrain agricole, sans voisin, donc sans recours, sans problématique d'amiante, de pollution, de tout ce qu'on veut, etc. Je fais mon petit projet simple, je maîtrise techniquement parfaitement. En termes financiers, c'est moins cher, donc j'engage aussi moins d'argent au début. Enfin voilà. Et quand on est sur un endroit où on pourrait comparer les deux, souvent, c'est plus cher de réhabiliter que de démolir et reconstruire. Quoi. Très souvent, l'optimum économique et en termes de risque, d'engagement, etc., qui sont d'autres sujets aussi qui sont dans la performance des entreprises, c'est plus simple. Donc, c'est pas pour rien que ça s'est fait comme ça et que ça se fait encore beaucoup comme ça, même s'il y a une volonté et politique et sociétale de changer ça pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant d'environnement. Hein. Quand on garde ne serait-ce que le gros œuvre d'un bâtiment, en termes c'est ce qui pèse le plus lourd, donc en termes de sable, de tout ce qu'on veut, même de carbone, hein, le béton dans les matériaux, c'est ce qui pèse le plus lourd en termes d'émissions, parce qu'il y a le ciment qui est très émetteur. Beaucoup d'acier aussi, donc on a envie, mais c'est pas si simple. Il y a aussi des notions économiques et de marché qui font que c'est encore que marginal. Aujourd'hui, dans des endroits où il y a de la vacance de bureaux, acheter un immeuble de bureaux pour le transformer en logement, parfois malgré l'état du marché locatif de bureaux, le bâtiment de bureau est beaucoup trop cher pour viabiliser une opération où je dois acheter cet actif, payer tous les travaux. Et ensuite, vendre du logement, ça n'a pas financé tout ça, donc c'est pas possible. Et donc, on reste là, et on a un bâtiment qui est en attente.
Mais c'est complètement crétin.
Alors, au fur et à mesure que le monde change, les valeurs des bureaux dans certains endroits vont baisser, voilà. Et donc, on va avoir des équilibres économiques qui vont se recréer. Mais il y a des freins à tout ça, parce qu'évidemment, personne, enfin, tous les propriétaires des bâtiments n'ont pas envie d'acter les pertes qui correspondent à la baisse de valeur. Et donc, voilà, on parlait de verrouillage, on a tous ces éléments-là. Il faut voir que, là, on ne l'a pas tellement évoqué, mais derrière l'aspect de l'immobilier, il y a un aspect de finance qui est colossal. Hein. C'est le premier asset en termes de valeur financière au monde. Et donc, dès lors qu'on dit « Ah bah très bien, on va faire ci, on va faire ça », ça veut dire parfois détruire de la valeur. Et cette valeur-là, c'est les pensions, les deux retraites, toutes ces choses-là. Et on ne peut pas juste, comme ça, du jour au lendemain, détruire ça sans avoir des conséquences.
Arrêtons-nous un instant sur la dimension financière qu'évoque ici Diego. Depuis la fin des années 90, l'immobilier est devenu un support de produits financiers, donc voué à une certaine rentabilité. De nombreux contrats d'assurance-vie ou de plans épargne-retraite permettent d'investir dans des fonds immobiliers. La participation des acteurs de la finance constitue parfois un véritable atout, lorsque par exemple, ils contribuent au développement urbain des villes en partenariat avec les communes, en apportant des fonds en échange de loyers ultérieurs qui seront payés par les occupants des bâtiments, bureaux ou habitations. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est alors très compliqué de revoir à la baisse l'équation économique et les niveaux de rentabilité sur la base desquels les fonds ont été investis. Je ne connais guère d'investisseurs qui soient prêts à revoir à la baisse leurs émoluments, et encore moins quand le retour sur investissement doit servir à financer une assurance vie ou une retraite complémentaire.
On parlait de verrouillage, hein. C'est le problème, c'est qu'on est ancré dans un système où tu veux casser quelque chose il y a tout le reste qui en dépend. Et donc, on ne peut pas trop changer les trucs sans changer tout le système. Et c'est pour ça que dès qu'on regarde l'immobilier, en fait, il faut regarder la société et l'économie dans son ensemble. Si on prend pas les fonds de pension, mais même individuellement, l'immobilier, c'est le patrimoine des Français, hein, beaucoup plus que quoi que ce soit d'autre. C'est l'héritage, c'est ta retraite, c'est toutes ces choses-là.
Comme sur tous les autres sujets, il faut admettre qu'il y aura des perdants de la transition, qui verront leur patrimoine perdre en valeur ou leur retraite complémentaire diminuer. Alors, pour que ce soit acceptable, il faut qu'il y ait des bénéfices, au moins à long terme, et des contreparties. Mais lesquelles ?
La première réponse, je l'ai un peu donnée tout à l'heure, c'est dire où est-ce qu'on construit ? Voilà. Et donc, chercher le recyclage urbain, chercher les zones déjà artificialisées, chercher la réhabilitation plutôt que la démolition, chercher toutes ces choses-là, avec toutes les limites, tous les freins dont on a parlé. La deuxième chose, c'est se poser fondamentalement la question de qu'est-ce que je peux apporter à un territoire. Et je vous disais un peu tout à l'heure, je le dis de façon caricaturale, mais c'est pas forcément comme ça qu'était la culture de la promotion immobilière du XXe siècle. C'était une logique hein, de droit, j'ai un PLU, j'ai le droit de faire ça, et il y a une viabilité économique ou pas. Voilà. Voilà le prix du logement, voilà le prix du terrain, ça marche, je fais. Point bas. Et quand je dis ça, je me suis pas posé les questions de que veulent les riverains, que veut le maire, quel est le projet de la ville, etc. C'est absent de la question. Maintenant, on a largement cheminé et il faut qu'on fasse du développement en se posant avant tout quelle est la vision politique, quelles sont les contraintes de la ville, quels sont les besoins auxquels il faut répondre. Alors, il y a souvent largement des besoins immobiliers. J'ai justement des étudiants, il n'y a pas assez de logements, etc. Mais il y a des choses plus connexes qu'il faut qu'on regarde. Si, par exemple, dans la même logique, j'ai plus de place dans les écoles et que je viens et que je fais 200 logements familiaux, qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà. Si je fais des logements étudiants, j'ai pas de problème sur mon école. Donc c'est déjà vachement plus smart de faire ça. Et après, on peut se poser des questions. Je refais en plus un petit bout de pleine terre là où il y en avait pas parce que j'ai réussi à optimiser. Je fais je rapporte quelque chose en termes de cycle de l'eau, de verdure, etc. Les commerces que je peux apporter. Et on peut aller plus loin dans les réflexions d'aujourd'hui. Par exemple, sur les énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des panneaux photovoltaïques, justement, en dehors de la ville, en rasant des forêts, en face de chez tes parents, ou j'en mets sur mes toitures de bâtiments neufs, peut-être demain, alors, c'est encore difficile, mais dans des schémas d'autoconsommation collective, où du coup, même les résidents autour, les riverains, pourront accéder à une énergie pas chère, propre, etc. Donc ça, c'est un exemple, il y en a 50 000 comme ça.
Finalement, le problème avec la construction, c'est qu'une fois que le bâtiment est là, il est là. Et si on n'en a plus besoin dans 10 ou 30 ans, il est toujours là. Regardez la situation de nombre de stations de sport d'hiver, où les résidences de tourisme vieillottes, façon clapier à lapin, restent vides 11 mois sur 12 et sont trop chères et trop complexes à réhabiliter en autre chose. Alors, pour l'avenir, ne faudrait-il pas que toutes les constructions soient recyclables et qu'elles soient conçues pour pouvoir facilement changer de vocation ou même être carrément démontées ?
La première chose, c'est que un bon bâtiment de bureau en termes de conception, c'est pas du tout un bon bâtiment de logement en termes de conception. Donc, si je veux faire un bâtiment qui est vraiment fait pour faire très très facilement de l'un à l'autre, je fais un mauvais bâtiment de bureau et un mauvais bâtiment de logement en même temps. Voilà. Et donc, moi qui suis en concurrence contre tous les autres, si mon bâtiment de bureau il est pas très bon, parce qu'il est fait pour être passé à l'un, c'est pas moi qui vais faire l'opération parce que je vais moins sortir de valeur économique. Un exemple très très simple, c'est l'épaisseur des bâtiments. Voilà. Un bâtiment de bureau, ça fait à peu près 18 mètres de large. Alors, je te parle de standard, évidemment, tout dépend du terrain, du machin, du mais 18 mètres de large, un bâtiment de logement, c'est plutôt 14. Donc, je peux faire un bâtiment de bureau de 14, mais ça veut dire que mes ratios de surface utile sur surface pas utile, mes ascenseurs, mes couloirs, mes machins, mes bidules, mes toilettes, etc., vont être moins bons. Donc voilà. Ou alors je fais un bâtiment de 18 mètres, mais quand je ferai du logement, je vais me retrouver avec des profondeurs et des zones aveugles. Alors je peux faire des celliers, je peux faire des trucs, je peux imaginer plein de choses. Mais enfin bon, globalement, tu comprends. Voilà. La deuxième chose, c'est que la chaîne de valeur économique, on parlait de l'asset management, n'est pas capable d'intégrer dans son équation ça. Personne ne va dire « Ah, moi ce bâtiment, je vais l'acheter 10% plus cher que sa valeur de bureau telle qu'elle l'a à l'instant T » parce que dans 40 ans, peut-être que des changements sociétaux qu'on ne sait pas vraiment feront que je pourrais le reconvertir à bas coût, alors que sinon, je ne pourrais pas le reconvertir à bas coût, ça me coûtera très très cher, voire il faudra le démolir. Ça, c'est inexistant dans les équations d'un investisseur. Donc, il y a quelques projets qui sont faibles et qui sont plutôt soit de l'ordre du démonstrateur, avec une volonté publique, dans des concours, soit dans des cas très particuliers. Par exemple, on est un certain nombre d'acteurs de la profession à s'occuper du village olympique, voilà, pour l'année prochaine. Et là, on a un cas de réversibilité hyper intéressant, très court terme, mais pour le coup, complètement certain. On va accueillir des milliers d'athlètes. Quelques mois après, ils seront partis et il faudra transformer ça en bureau, en logement, en commerce, etc. Et donc là, depuis le début, ça fait partie de l'équation du projet, technique, économique. Mais on le sait, c'est certain, et ça rentre dans l'équation, dans l'intégrale depuis le début. Mais c'est possible parce qu'il y a la volonté politique, parce qu'il y a la réversibilité réelle et planifiée. Et donc toute l'équation économique est construite dessus.
À écouter Diego, je comprends mieux la difficulté pour des acteurs économiques, en concurrence entre eux, de modifier leur stratégie et de placer en priorité dans leur projet de construction la réversibilité d'un bâtiment ou sa modularité. Et pourtant, ces enjeux sont de plus en plus présents dans les réflexions des acteurs du secteur, qu'il s'agisse des promoteurs, des architectes, des think tanks spécialisés ou des élus. Que manque-t-il donc pour accélérer les choses et transformer durablement les manières de concevoir et de construire la ville ?
Toutes ces notions sont là aujourd'hui, voilà. On cherche encore les façons de les matérialiser, de les viabiliser, de les industrialiser, de progresser là-dessus. Très clairement, on est un métier en transition rapide et on n'a pas du tout fini le chemin. Mais encore une fois, c'est une équation systémique, c'est pas la promotion et la vision de la ville seule, c'est une vision de l'économie, c'est une vision de l'emploi, c'est une vision du patrimoine qu'il faut réussir à faire coexister, et il n'y a pas encore de projet politique qui répondent et qui soient portés là-dessus.
On aime la bagnole, et moi je l'adore.
Nous soutenons totalement l'industrie aéronautique.
Il y a un choix possible qui est de continuer à dire le cœur de notre modèle économique, c'est de produire, sans se soucier de l'écologie.
Le sujet aujourd'hui, c'est produire plus, produire mieux, mais surtout produire plus vite.
Vous ne proposez pas de ne plus produire. Et je crois comme vous que ce ne serait pas une réponse au défi qui est le nôtre.
Pour la première fois de son histoire récente, la France a une croissance qui est solide et qui crée de l'emploi.
Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
Les acteurs économiques sont des structures sociales d'hommes et de femmes qui ont des convictions, qui sont les convictions des Français. Et donc, ils portent les mêmes volontés de durabilité qu'un grand nombre de Français aujourd'hui. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on reste effectivement dans un marché libre et concurrentiel. Et il faut attendre des entreprises qu'elles fassent le maximum de ce qui est faisable dans les règles du jeu dans lesquelles elles sont. Et je pense qu'elles ont de plus en plus vraiment la volonté de le faire. Et même l'intérêt, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a tellement plus d'acceptabilité de l'acte de construire, etc., qu'il y a une vraie recherche proactive, pas seulement par des convictions individuelles, mais par des enjeux business, d'aller dans ce sens-là. Et ça, c'est presque bien. C'est-à-dire qu'on sent un alignement de planète qui fait que les entreprises se transforment. Maintenant, voilà, on continue avec des acteurs économiques. Un promoteur, pour parler de ça, hein, c'est quelqu'un qui engage de l'argent. Si c'est pas viable, bah il arrête de faire, hein, tout simplement, quoi. Et donc on peut pas attendre de lui de faire des autres choses que des projets qui soient viables économiquement et qui sont concurrentiels, parce qu'on est largement en concurrence. Et donc il y a un rôle de l'État et du local, parce que c'est aussi énormément la mairie, hein, le permis de construire, c'est le maire, voilà. Donc il y a un rôle du politique qui est fondamental et qui est nécessaire et dont il faut trouver l'équilibre entre nous permettre de progresser mais sans complètement gripper la machine. Donc l'équilibre est extrêmement compliqué et c'est là où c'est vraiment une vision politique globale d'ensemble, de système, de projet de société qui est aujourd'hui un peu qu'on n'a pas trouvé et sur lesquels on n'arrive pas à s'aligner. Et d'ailleurs, les conditions même du débat démocratique ne sont pas forcément là, hein, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir, très modernes, sur les réseaux sociaux, la post-vérité, tout ce qu'on veut, enfin voilà. Donc, c'est difficile.
Oui, c'est difficile. À force de chercher des coupables, à exciter les polarités, à présenter d'un côté les entreprises comme le grand Satan et de l'autre les militants écologistes comme des radicaux irresponsables, on se retrouve sans espace de discussion, sans lieu où poser calmement les termes du débat. La Convention citoyenne pour le climat l'a montré, c'est pourtant possible d'organiser un débat citoyen, démocratique, qui parvienne à des propositions très concrètes et consensuelles parmi les participants. Mais encore faudrait-il qu'elles soient suivies d'effets et que ces modalités de débat soient diffusées à tous. Ça me rappelle ce que disait Timothée Parik dans l'épisode 8 sur la nécessité absolue d'organiser de tels échanges sur tout le territoire. Et ça me paraîtrait essentiel sur un sujet comme l'habitat qui conditionne nos modes de vie.
Alors, c'est vrai que l'urbanisme et l'architecture sont des verrous de comportement individuel. Si tu habites dans un pavillon que pour acheter du pain, tu dois faire 10 km pour aller dans le centre commercial et 30 km pour aller bosser, etc., tu peux être le plus engagé environnementalement du monde. De toute façon, tu fais 50 km par jour, aller et retour. Et voilà. Donc, on ne peut tous transiter environnementalement que dans la mesure de ce que notre infrastructure au sens très large nous permet de faire. Et donc, en ce sens-là, faire évoluer la ville, c'est aussi réfléchir à quelles sont les conditions nécessaires pour qu'individuellement, on puisse avoir un mode de vie plus durable. Et donc, il faut axer sans doute beaucoup plus la vision de la ville sur la force du tissu social, là où ce n'était pas nécessairement la logique. Mais ça fait partie vraiment des champs de réflexion pour essayer de à la fois permettre des modes de vie plus décarbonés, plus sains, etc., et un lien social qui fasse que ce qu'on entrevoit avec notre prisme d'aujourd'hui sur la façon dont on pourra vivre demain dans cette ville-là soit plus en cohérence avec ce qu'on comprend du monde qui nous attend. Il faut faire avec beaucoup d'humilité parce que c'est extrêmement complexe, il y a énormément d'incertitudes, personne ne voit avec précision ce que va être le monde de demain à moyen et encore moins à long terme, mais on a quand même évolué par rapport à ce qu'on comprenait de ce qui était les conditions d'une vie réussie par le passé. Quoi. Voilà. Donc on réfléchit sur des espaces vraiment à vocation d'activité collective. Par exemple, des jardins partagés, on va mettre une association et ils vont aller ensemble faire des trucs, etc. Et ça, ça fonctionne et ça peut vraiment créer un collectif. Donc la mutualisation, c'est plus une notion environnementale. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas abordé dans le débat tout à l'heure, mais on a parlé de changement d'usage. La mutualisation est au cœur de ça. Et on voit émerger aujourd'hui, plus parfois par contrainte économique que par vraie encore vision sociétale ou quoi, des modes de vie comme ça, c'est-à-dire la colocation, voire le co-living.
Cette vitréenne d'origine a laissé de côté son projet d'habiter seule à Rennes en tombant par hasard sur l'annonce. Pour 570 euros par mois, elle dispose de toilettes et d'une salle de bain privée.
Le Janzé, c'est pas très loin de Rennes, pas très loin de Vitré non plus, donc le lieu était bien. Et puis le fait d'être à 8, ça donnait envie aussi, c'est vraiment une ambiance spéciale quoi.
Autre bonus, un service de ménage chaque semaine. Les 8 co-livers de 25 à 42 ans se partagent une maison de 270 mètres carrés avec plusieurs espaces communs. Le co-living, c'est donc un mix entre la colocation et l'hôtel.
Colocation pour l'espace partagé, mais par contre, on a vraiment essayé d'apporter beaucoup de confort et de valeur pour gommer justement toutes les zones de frottement qui font en sorte que souvent les gens s'en vont parce qu'ils en ont marre de composer avec soit des gens qui ne font pas le ménage, ou soit parce qu'ils n'ont pas envie de partager leur salle de bain, leurs toilettes, qui sont aussi des espaces intimes. Bienvenue officiellement au co-living.
Merci beaucoup.
Et là, effectivement, on a des surfaces individuelles réduites, des surfaces collectives très importantes, mais du coup, des surfaces ramenées à l'habitant inférieures au monde de l'individuel. Et c'est un vrai facteur, à la fois d'économie et donc d'accès au logement, etc., mais aussi d'environnement. Et on a calculé, nous, ça va être un de nos axes stratégiques environnementaux, ce qu'on a appelé l'empreinte carbone résidentielle de nos habitants en résidence gérée. Donc c'est la part de ton empreinte carbone sur lesquels, en tant que nous opérateurs de résidences gérées, on a un lien, donc les consommations d'énergie, si on sert à manger, bah, l'impact de la bouffe, etc., etc., le mobilier, voilà. Tout ce qui est sur ton empreinte carbone, d'autres choses, on ne compte pas. Et donc, sur cette part-là de l'empreinte, on est à peu près 25 à 30% inférieur au français moyen qui correspond. C'est-à-dire, je compare des étudiants, des seniors, parce que, on a moins de surface, voilà, très clairement, et donc moins de consommation d'énergie, moins de tout ce que tu veux, voilà. Et on est aussi en centre-ville par rapport à des seniors qui vivent dans des pavillons de baby-boomers. Et donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, en créant cette infrastructure de vie, on permet un mode de vie plus aligné en travaillant et la mutualisation et des bâtiments performants de proposer de la nourriture moins carnée.
Changer les modes de vie pour changer la ville. Voilà l'une des directions possibles pour diminuer l'empreinte carbone de notre habitat. À moins que ce ne soit l'inverse, et qu'il faille proposer, dans une logique d'offre, de nouveaux types d'habitats collectifs permettant d'aligner son mode de vie avec ses convictions. Alors, faut-il s'attendre à un développement massif de l'habitat partagé et du co-living dans les années qui viennent ?
Il y a un sujet dont on n'a pas trop parlé, et pourtant qui me semble assez intéressant, parce que dans les verrous de toute cette question immobilière, et qui bloque aussi ces transitions, notamment d'usage et donc de façon de vivre, d'environnement, etc., c'est la notion de propriété, qui est extrêmement puissamment ancrée et dans nos imaginaires et dans nos cadres juridiques, constitutionnels, et qui fait qu'on est un peu dans une notion de tout ou rien et qui est très sous-optimale pour tout ça. Je suis propriétaire de mon pavillon, mes enfants partent, ma femme décède, alors je peux déménager, mais je suis chez moi, c'est aussi mon imaginaire de propriétaire, et donc je reste dans 180 mètres carrés tout seul, alors qu'il y a des étudiants qui arrivent pas à se loger en partageant à 4 dans 60 mètres carrés, donc on commence à comprendre là un peu la contradiction, et c'est tant un problème patrimonial et financier qu'un problème vraiment immobilier et environnemental. Et il y a pourtant des solutions, et même en restant dans le cadre légal, etc., qui permettraient d'évoluer ça avec une vision de la propriété plus démembrée, moins absolue, quoi, voilà, mais qui sont pas encore en place et qui sont tellement pas encore dans l'imaginaire des Français que c'est très difficile d'aller en ce sens-là. Mais ça pourrait permettre de fluidifier un peu les choses et de faire une optimisation d'allocation d'actifs, hein, si on parle un peu techniquement de tous ces trucs-là. Et on le disait tout à l'heure, hein, il n'y a pas assez de logements, il y a une crise sociale, machin, mais quand tu regardes les mètres carrés, en fait, il y a plus de mètres carrés par personne en France qu'avant. C'est juste que les seniors en ont beaucoup trop, là où les étudiants n'ont pas du tout assez. Et tant que tu n'arrives pas à faire des choses qui circulent mieux, tu te retrouves avec ces problématiques-là.
Touché à l'imaginaire de la propriété individuelle, ça me paraît très compliqué. Devenir propriétaire reste un marqueur fort dans notre représentation collective d'une vie accomplie. Mais peut-être qu'on pourrait s'interroger sur la propriété, non pas de l'habitat, mais des biens communs dont nous profitons tous, l'eau, les forêts, l'environnement naturel en général. Si nous en étions tous propriétaires, nous en sentirions-nous plus responsables ?
Alors, la notion des communs, elle est très présente, hein, dans nos réflexions. Ouais, en fait, ouais. Mais le foncier est d'une certaine façon un bien commun, et c'est aussi pour ça que les gens luttent contre nos activités. Et on n'a sans doute pas assez créé de biens communs, nous, par notre activité, pour créer cette acceptabilité. Et dans les réflexions qu'on a, tu vois, on cherche, nous, là, à essayer de massifier des installations photovoltaïques en tiers investisseurs, donc avec d'autres gens qui viennent financer, exploiter. Donc ça permet à nous de sauver notre viabilité économique. Si je le faisais volontairement en payant moi, en fait, je ne ferais pas d'opération. Mais je crée une sorte de bien commun, parce que finalement, on a un besoin collectif d'installation d'énergie renouvelable, et je contribue à l'essor de ces énergies vertes qui font qu'on sera moins dépendant au carbone, d'énergie importée, etc. Et donc là, voilà, je profite d'une opération immobilière pour faire quelque chose qui a une valeur collective. Et c'est un peu ces notions dont on parlait tout à l'heure, hein, d'amener de la valeur au territoire pour créer quelque chose auquel on est un peu tous envie d'adhérer et pas juste de lutter contre.
Comment créer de la valeur collective par l'aménagement urbain sans détruire du bien commun environnemental ? Voici l'équation assez insoluble à laquelle se trouvent confrontés aujourd'hui les aménageurs et les bâtisseurs. Dans un contexte général où la performance économique prime encore sur l'intérêt écologique des projets et où la concentration des emplois en métropole reste une tendance lourde, générant un besoin de logements et d'infrastructures toujours plus important. Finalement, décarboner la ville et l'adapter au changement climatique est un défi qui partage bien des points communs avec celui du secteur des transports. Des infrastructures existantes, dont on ne peut pas faire abstraction, la focalisation sur des solutions techniques d'efficacité énergétique, mais bien peu de réflexion et d'action pour améliorer le remplissage des logements et surtout diminuer la demande en logement et donc en artificialisation. Loin des projets séduisants de villes vertes mis en avant par les concours internationaux, la réalité de l'urbanisme d'aujourd'hui conditionne encore très fortement celui de demain, du fait de l'inertie des infrastructures. Il y a encore bien des progrès à faire pour adapter la ville d'aujourd'hui au climat réel du futur.
Enquête d'avenir.
L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquêtedavenir.com.